Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est affreux tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sape,
chiffon, c'est parti. Pour cette nouvelle saison de Chiffon, j'ai décidé de vous offrir des épisodes bonus un peu différents pour découvrir les coulisses et les enjeux de ceux qui font la mode. Après avoir abordé l'éco-responsabilité dans la fast fashion avec Julie Marlène Pellissier, responsable de la communication sustainability d'H&M France, voici le deuxième volet consacré à l'empire H&M. J'ai invité à ce micro Vanessa Bélanger, directrice de la communication de H&M France, pour découvrir les coulisses de la marque avec une question centrale, les étapes de la fabrication d'une collection. Bonjour Vanessa.
Bonjour Valérie.
Alors peux-tu nous rappeler l'histoire de H&M parce qu'il me semble que c'est une très très vieille histoire.
Absolument. En fait, H&M a été fondée par un Suédois qui s'appelle Erling Persson en 1947. Au début, tout a commencé par une entreprise de vente au détail. Il a ouvert un simple magasin de vêtements pour femmes qui s'appelait Hennes, qui voulait dire « hers » en anglais, « à elle », donc pour la femme.
Que tu traduirais par ?
Par « la sienne ».
La sienne.
Ouais, la sienne. Donc à la base, c'était vraiment un simple magasin de vêtements pour femmes. Ensuite, ça a connu pas mal de succès. Il a commencé à ouvrir pas mal de boutiques à Stockholm. Il a racheté un autre magasin qui s'appelle Moritz. Et c'est devenu par la suite « Hennes et Moritz ». Et ça a grandi.
Qui fait H&M.
Exactement, H&M. On a gardé toujours le même logo aujourd'hui. Et ça a connu un énorme succès depuis 1947 pour arriver à la taille qu'on connaît aujourd'hui et surtout au groupe que l'on connaît aujourd'hui.
Justement, tu parles de groupe H&M, c'est aussi d'autres marques que l'on connaît bien.
Absolument. On est aujourd'hui un très grand groupe qui comprend 8 marques avec des identités très différentes et des identités de marque et des ADN qui sont clairement définies. On a H&M, bien évidemment. On a COS, Monkey, Weekday, Another Stories. On a H&M Home, qui est aussi une marque à part entière aujourd'hui. Et on a également 2 marques que l'on ne connaît pas encore en France, Arquette et Afound.
Ah, je ne connais pas celle-ci. Elle est où ?
On en a en Suède et online également.
Et quelle est l'identité de la marque
En fait, on vend d'autres marques.
D'accord.
C'est un site multimarque qui vend d'autres marques. Et on va peut-être un jour développer en France.
Combien y a-t-il de H&M dans le monde ?
On est présent aujourd'hui dans 73 marchés à date, parce que tout ça peut changer bien évidemment, d'un mois sur l'autre, avec 4400 magasins et 50 marchés online.
Bon, il y a encore des pays où il n'y a pas H&M, alors j'avais entendu dire que le Brésil n'a pas de H&M.
Absolument, le Brésil est un des derniers très grands marchés où H&M n'est pas encore implanté, on n'est pas encore arrivé aux clients brésiliens, mais pourquoi pas un jour.
Et le dernier pays qui vient d'avoir un H&M, c'est la Lettonie ou la Lituanie, non, c'est pas ça ?
Absolument, on a ouvert...
Et t'as vu comme je suis calée sur H&M ?
Très très calée, je sens la fan et je sens la grande cliente. On a ouvert la Lettonie et on a ouvert également la Bosnie-Herzégovine récemment.
Qui sont les premiers consommateurs d'H&M C'est la Suède, l'Allemagne, l'Angleterre.
En termes de business,
ouais,
l'Allemagne est un très très gros marché, les États-Unis bien évidemment, la Chine et la France arrivent aussi parmi les premiers marchés qui ont un très gros chiffre d'affaires et un très grand nombre de magasins.
Alors quand on dit H&M, on dit fast fashion, c'est la partie qu'on a traitée avec Julie Marlène Pellissier dans l'épisode précédent. Mais en fait, fast fashion,
c'est mode consommable, jetable, rapide. Mais au départ, H&M voulait, c'était la mode pour tous. C'est ce que nous avait expliqué Julie Marlène.
Oui, l'idée d'H&M et l'idée de Erling Persson, qui est notre fondateur, était de vraiment démocratiser la mode, démocratiser le prêt-à-porter. Alors, ça paraît facile aujourd'hui, parce qu'avec on a une telle diversité d'offres de marques dans le prêt-à-porter, mais c'était vraiment extrêmement novateur dans les années 40 et les années 50. Et c'est ce qu'on veut encore aujourd'hui, notre volonté première est de proposer de la mode de qualité à un prix abordable et surtout fait de manière responsable.
J'invite les auditeurs qui ne l'auraient pas écouté à écouter Julie Marlène Pélissier sur le sujet.
Absolument.
Quand on regarde le processus de création, H&M, c'est pas forcément de la fast fashion, ce serait plutôt de la slow fashion. Tu as bien aimé mon jeu de mots.
J'ai
quand
beaucoup
même, hein.
aimé, absolument. Non, je sais. Moi, j'ai souvent le poil qui se hérisse, pardon, quand j'entends parler de fast fashion. Et nous, on en rigole pas mal en interne, parce qu'on est, loin d'être fast, et peut-être qu'on devrait l'être un petit peu plus, d'ailleurs, pour parer au rythme de l'industrie. Mais on est plutôt assez, de par notre héritage suédois, parce qu'on est encore aujourd'hui une maison familiale. Notre CEO est le petit-fils de Erling Persson, le fondateur de la marque. Donc, l'ADN familial est suédois est encore extrêmement présent au jour le jour dans toutes nos actions et toutes nos réflexions, et on est extrêmement soigné, on prend notre temps dans tous nos process de réflexion et de création. Donc on est loin d'être fast, que ce soit en termes de design, en termes de production.
En termes de création aussi, c'est ce que enfin, le design c'est la création, mais
ouais.
Tu m'expliquais quand on préparait l'émission que certaines collections sont faites 2 ans en amont.
Ouais, les collections sont faites de manière très très réfléchie. En fait, la manière dont ça se passe, elles sont réfléchies, créées, designées en Suède. Donc, on a des studios de création avec des mood boards, des studios avec des espèces de salles remplies de trésors vintage d'inspiration.
J'adorerais visiter ça. On ça va être passionnant.
Pourquoi pas un jour, Valérie? Non, c'est vraiment passionnant et c'est là où on est vraiment au cœur de toute la créativité et qui ressemble beaucoup à, pour ceux qui connaissent, à des studios de création de grandes maisons. Donc, on a pas mal d'équipes qui sont dédiées à ça en Suède.
Vous avez un bureau de tendance au sein d'H&M?
Absolument. Et on a un...
Qui anticipe.
On a un buying office où...
Un bureau des achats.
Ah, exactement, bureau d'achat. Merci Valérie. Où nos acheteurs travaillent en équipe sur les tendances, les couleurs, la fabrication, les silhouettes pour créer toutes ces collections. Et ensuite, prochaine étape, on passe aux équipes de production. Les équipes de production transforment ces idées de design en produits plus concrets.
Donc là, par exemple, on va parler d'une chemise
ouais.
à manche-ballon.
Ce que je porte sur
voilà.
moi.
Alors toi, tu portes un sweat manche-ballon.
Ouais. Voilà.
Il a été élaboré il y a déjà quelques mois.
Ah oula, oui.
En Suède.
Mm-hmm. Parce que je viens de l'acheter, donc il y a très longtemps. On est en général à 2 ans.
2 ans, c'est ce que
deux
tu
ans,
disais.
Un donc, an et demi, ouais.
On
un
est
an
vraiment
et
loin de la...
Parce on est loin de la fast fashion.
Parce que quand
absolument.
On dit fast fashion, on dit sont souvent des copières aussi, donc.
Alors non, on est. Oui, je sais qu'on est. J'ai déjà entendu des critiques de copies.
Ce qui n'est pas votre cas.
Ce qui n'est pas notre cas, bah premièrement pour cette raison de timing, parce que pour des raisons de timing évident, on n'est pas, on n'a pas cette logistique de pouvoir copier. C'est absolument pas notre volonté. Après, pour ceux qui, pour expliquer un petit peu comment ça marche, que ce soit dans des grandes maisons de créateurs ou dans des marques de prêt-à-porter ou dans des marques plus accessibles comme H&M, tout le monde s'inspire du monde qui nous entoure.
Bien
on
évidemment.
S'inspire de musique, on s'inspire de voyage, on s'inspire de
l'art.
Ce
sont les tendances.
On travaille, exactement. Je sais que tu adores plus les tendances que la mode, Valérie. On s'inspire de tout ce qui nous entoure. On est influencé par ça. On travaille également avec des cahiers de tendance, avec des agences de tendance. Et donc, forcément, on retrouve des tendances qui sont les mêmes au même moment.
Bien sûr.
Que ce soit sur toutes les marques, indépendamment de leur positionnement d'ailleurs.
Donc, le sweat que tu portes, qui est très tendance, manche ballon, il a été conçu en Suède, enfin pensé
dessiné,
en Suède,
dessiné
et après
réfléchi en Suède. Ensuite, donc ça a été donc c'est équipe de design, ensuite bureau d'achat. Les bureaux d'achat sont en contact avec nos équipes de production qui sont elles-mêmes en contact et comme Julie Marlène l'a très bien expliqué avec nos bureaux de production à travers le monde. Et donc nos fournisseurs, puisqu'encore une fois, nous n'avons pas nos propres usines, mais nous avons des fournisseurs locaux sur plus de 20 marchés d'approvisionnement. Et nos pièces sont produites sur place, que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique, un petit peu partout à travers le monde, sur 20 différents marchés. Ensuite, parcours classique, de, enfin pas trop classique non, puisque je dirais que les vêtements sont amenés par bateau sur notre réseau de points de vente.
Ça, c'est important de le dire aussi.
Et ça, c'est assez rare parce que c'est pour une raison principalement écologique. Et ce qui fait encore une fois que on n'est pas fast, on pourrait l'être beaucoup plus, on pourrait être beaucoup plus rapide, mais pour cette raison, pour encore plus, on est absolument pas fast fashion.
Donc le sweat a été produit, il est arrivé, il revient en Europe, enfin sur les lieux aux États-Unis.
Dans nos magasins, absolument, ouais. À Paris, à travers la France.
Il est mis en vente. Est-ce que les collections sont similaires d'un pays à l'autre?
Elles sont à
par
date
exemple,
aujourd'hui.
Est-ce que ce pull, ouais, je peux le trouver à Rome, à Londres ou à New York?
À date aujourd'hui, elles sont assez similaires. Après, on travaille de plus en plus à rendre les collections de plus en plus pertinentes localement, pour s'adresser de la manière la plus optimisée possible à notre client.
Oui, parce que puisque j'imagine que les besoins ne sont pas les mêmes en Australie, hémisphère sud.
Absolument. Alors après, pour des raisons de météo, oui, les collections changent. Donc, on va pas retrouver la même chose au Chili en ce moment qu'on retrouve à Paris, pour des raisons évidentes de climat. Mais même au-delà de ça, on tend aussi à créer des collections plus pertinentes, parce que notre cliente à New York ou en campagne autrichienne ou à Okinawa au Japon, tous ces clients ou ces clientes, il n'y a pas que des femmes bien évidemment, sont très différentes et veulent des choses. Et
par exemple, tu peux nous donner des spécificités typiquement japonaises?
Par exemple, la cliente ou le client japonais, on sait très bien qu'il aime des choses qui sont très utilitaires, un peu uniformes, il y a des silhouettes un peu très plus uniformes et moins imprimées, moins fortes visuellement. Mm-hmm. Alors que d'autres pays, en Suède, on aime beaucoup les imprimés. Aux États-Unis, on voulait encore quelque chose d'autre, un petit peu plus, peut-être un petit peu plus streetwear. Là, on a la tendance de la bourgeoise, soi-disant,
qui
arrive absolument partout. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est très européen et qui fonctionnera beaucoup dans les pays latins. Mmh. Par exemple.
Tu crois que ça marchera en Chine, la néo-bourgeoise?
Est-ce qu'elle marchera en Chine? Je pense que oui, un petit peu forcément, parce qu'il y a un lien quand même un peu parisien-français, on sait que ça marche.
Il y a plusieurs collections chez H&M, notamment, on sait qu'il y a Conscious, mais il y en a d'autres.
Il y a pas mal de collaborations également.
Alors, les collaborations, on va en parler après.
Ouais, pardon. Okay.
Mais
on a nos propres collections qui nous sont vraiment propres. On a nos collections studio qui sortent deux fois par an, où sont des collections particulièrement, je dirais, edgy, très mode, assez pointues, qui sont très, très attendues et qui ont une renommée. Maintenant, tout le monde connaît le nom même du concept studio et on voit qu'il y a un très fort engouement pour ces collections-là. Après, on a les collections Conscious Exclusive aussi qui sortent deux fois par an en magasin et online, qui sont donc faites à partir de matériaux durables et qui sont, bon, comme une très grande partie de nos collections aujourd'hui, mais cette collection s'appelle Conscious Exclusive. Pourquoi? Parce que elles ont on utilise des matériaux très haut de gamme avec des procédés qui sont très recherchés et donc il y a un positionnement prix qui est aussi un petit peu plus élevé, qui est légitimement expliqué par la manière dont c'est créé, et sont une collection qui est vraiment exclusive, assez niche, très belle, qui s'adresse vraiment aux vrais fashionistas, si je puis dire.
Alors il y a aussi les autres collections.
Toute l'année, on a donc nos collections, on a des collaborations, on a différents types de collaborations. H&M est très très connu pour ça. On est fiers d'avoir été les premiers à instiguer des collaborations avec des grands designers et avec des maisons de créateurs.
Alors j'ai lu une thèse sur H&M. On parle du mastige, c'est bien ça?
Ah, du mastige, ça c'était...
C'est le mass market et le prestige.
Oui, ça c'était un terme qui était beaucoup utilisé quand on a notamment lancé ces collections qui ont rendu absolument fous nos clients, à commencer par la collection Karl Lagerfeld, il y a presque 15 ans.
Moi je me souviens d'une collab Isabelle Marant.
Ah oui.
Le premier jour, il n'y avait plus rien.
Non, mais en général, elles sont souvent épuisées au bout de même 10-15 minutes dans nos grands flagships. Après, encore une fois, on en revient à la pertinence. Il y a certaines collections, certaines collaborations qui sont plus pertinentes pour des marchés, pour certains marchés plus que d'autres. En France, effectivement, on est un pays très, très mode. Donc, les collections type Karl Lagerfeld, Isabelle Marant ou encore Balmain ont connu un très, très grand succès. On était... En fait, quand on réfléchit à une collaboration, on part toujours de ce que l'envie de notre client, de ce dont il aimerait l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans.
Oui, c'est ça, parce que c'est aussi vraiment élaboré très, très en avance.
Absolument. Ah bah oui. Déjà, on a besoin d'une organisation quand même pour tout est très réfléchi en amont. Et on réfléchit sans cesse à ce qui ferait plaisir à notre client, aussi nombreux et différents soient-ils. Donc c'est aussi pour ça qu'on doit forcément réfléchir à des collaborations qui sont différentes. Mmh. Donc une année, on va avoir un Moschino. L'année précédente, on avait Erdem, qui était beaucoup plus romantique, complètement différent.
Mais ces collaborations avec Vali ou d'autres personnes, est-ce que c'est uniquement en France ou c'est mondial? Comment ça se passe?
Non, ce sont des collaborations. Alors, il y a différents types de collaborations, si je puis dire. On a des collaborations avec qui sont très, très exclusives, que seul H&M a la capacité d'offrir, qui ont vraiment une dimension mode et une aura internationale avec un ou une designer, donc avec des maisons de créateurs, souvent une fois par an. Pour l'instant, après on pourra peut-être casser cette tradition à l'avenir, mais pour l'instant c'est chaque année est ponctuée d'une collaboration de ce type. Et ensuite on a d'autres collaborations qui sont, je dirais un peu moins niche peut-être, un petit peu plus commerciales, qui sont vendues dans un plus grand nombre de points de vente et qui peuvent avoir lieu avec d'autres marques ou d'autres illustrateurs par exemple. Donc là récemment on a eu la collaboration avec Pringle of Scotland, qui est une très belle marque de mailles britannique, écossaise pour être précis, qui a connu un très grand succès, qu'on a lancé il y a à peu près 2 semaines. On a eu également Richard Allen, on a eu Nathalie Lété, qui est une illustratrice française. Donc ça, ce sont des collaborations également globales à travers le monde, mais il y a forcément une pertinence en fonction de la collaboration et du marché. Donc par exemple, pour prendre des exemples concrets, Nathalie Lété, c'est une illustratrice française. Donc forcément, cette collaboration a une résonance d'un point de vue image et d'un point de vue commercial qui est plus importante et qui parle plus à notre client en France. Pringle of Scotland, par exemple, bon, elle a connu un engouement très, très fort en France, mais au UK, c'est sûr que le client britannique, cette marque lui parle beaucoup plus.
Richard Allen aussi, je
pense. Richard Allen aussi, exactement, absolument. Après, la force aussi de ces collaborations et d'H&M, c'est de faire indépendamment de l'origine du créateur ou de la marque, c'est de faire des produits qui sont très forts. Donc la collection Richard Allen était certes anglaise, mais les produits étaient extrêmement bien faits et très forts visuellement. Et nos clients ont sauté dessus à la rentrée.
Et j'imagine que tu peux pas nous dire le nom de la prochaine grande collab.
Non. Je ne peux pas. Peut-être que je la connais même pas.
Tu ne la connais pas?
Peut-être pas. En tout cas, il y aura de belles surprises encore l'année prochaine.
Bon, je peux pas te torturer.
Non.
Qui est la cliente ou la femme H&M? Comment tu la qualifierais, toi?
Ah, il n'y a pas de client type. On s'adresse vraiment à tout le monde, aux plus jeunes, aux moins jeunes, aux mamans, aux non-mamans, aux hommes qui veulent porter des vêtements de femmes, aux femmes qui veulent porter des vêtements d'hommes. L'une de nos valeurs et d'un des éléments clés de notre ADN, c'est d'être extrêmement inclusif. On a été les premiers à une des premières marques, indépendamment de notre positionnement d'ailleurs, à mettre en scène tout type de clients et de clientes, indépendamment de leur âge, de leur orientation sexuelle, leur genre, leur aspect physique. On a aussi été une des premières marques à arrêter de retoucher les mannequins sur nos photos de campagne.
Ça, c'est important de le dire.
Ça, c'est important parce que, encore une fois, on veut s'adresser à tout le monde, on veut rendre tout le monde à l'aise et on veut que nos clients s'identifient dans nos campagnes. Donc, ça sert à rien d'avoir une... On veut vraiment amener la marque proche de nos clients et on veut que les clients se sentent à l'aise en regardant nos campagnes, en regardant nos photos, en venant au magasin, tout au travers du parcours, leur parcours d'achat. On veut que leur expérience client soit très belle et qu'ils repartent le cœur plein et pas mal à l'aise, justement.
Effet important aussi, les tailles chez H&M. Ça
Il y
va
a
du 34,
toutes les tailles, absolument.
Et ça monte jusqu'au 46.
46, ouais, exactement. Parce qu'encore une fois, il faut qu'on parle à tout le monde.
Merci infiniment, Vanessa.
Merci, Valérie, à toi de m'avoir accueillie.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.